Bon, bah, écoutez, on va donc démarrer. Merci d'être venu ce soir pour ce livre, donc Une année au château Gruau-Larose, que l'on a fait traduire en français et qui va être aussi en chinois. C'est un roman, mais c'est un roman tout simple, dans le sens où je ne sais pas si certains l'ont déjà lu, mais c'est un roman de 100 pages qui parle de la vie d'une personne sur une période assez courte, qui est sur une période de 12 mois, c'est-à-dire la préparation du millésime 2010 à Bordeaux. Alors je suppose, parce que vous êtes de la région, vous en avez beaucoup entendu parler de ce millésime-là, notamment au moment des primeurs, donc début du mois d'avril. C'est un millésime exceptionnel. N'étant pas de Bordeaux, moi j'aime bien critiquer les Bordelais parce que chaque année c'est des millésimes exceptionnels. Mais là il faut reconnaître qu'il est vraiment exceptionnel. 2009 était déjà fabuleux. J'ai la chance de pouvoir aller dans tous les plus grands châteaux bordelais et de pouvoir déguster en avant-première tous ces vins-là. Et c'est vrai qu'ils étaient vraiment fabuleux. Mais 2010 est encore plus grand, je le pense, dans sa structure. Et donc on est arrivé à un moment avec M. Merlot qui va arriver, qui est le propriétaire du château Gruau-Larose, pour lequel je travaille, puisque je m'occupe moi-même d'une société qui est spécialisée dans la communication et dans le marketing pour des grands domaines viticoles en France et à l'étranger. M. Merlot qui me dit à un moment, il me dit c'est vraiment tellement grand ce millésime qu'il va falloir envoyer une petite fiche technique aux journalistes de 3 pages pour leur expliquer un petit peu le travail que l'on a fait. Et pour ma part, étant venu une fois par mois au château, et puis surtout, je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir visité le château et ses environs, mais son beau vignoble de 80 hectares, pour avoir eu la chance de me promener un petit peu dans les vignes chaque mois avec les personnes en charge du vignoble, je me suis dit, 3 pages, c'est un petit peu réducteur quand même, parce que faire passer un message d'un millésime fabuleux simplement sur 3 pages, c'est un petit peu compliqué. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Je pense qu'il faudrait l'étoffer et puis lui donner une petite sensibilité qui n'est pas simplement une sensibilité, si on peut appeler ça sensibilité, mais une sensibilité technique, mais une petite sensibilité de luxe, de haut de gamme. Et je lui ai proposé de faire un livre. Alors, M. Merlot, qui a la chance d'avoir de nombreux contacts, connaît des romanciers dont vous connaissez les noms, bien entendu. Il a appelé une personne et puis qui lui a dit, peut-être dans 2-3 ans, mais là, je ne peux pas le faire, j'ai trop de travail. Et c'est vrai que le millésime 2010, en parler dans 2-3 ans, ce ne sera pas vraiment intéressant. Nous, c'était de l'actualité à chaud dont on avait besoin. Et je lui ai dit, écoutez, alors, dans ce cas-là, je vais vous proposer un roman, je vais rédiger un roman, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors moi, je ne viens pas du tout du monde littéraire, je n'ai pas fait comme certains de mes amis les grandes études littéraires. Moi, je suis passé par le monde du management, j'ai fait école de commerce, j'ai fait un MBA, j'ai voyagé à travers le monde pour des grandes entreprises, mais je n'ai jamais eu la chance d'écrire un livre. Alors je lui ai proposé ça, je lui ai dit, bon, c'est très simple, hein, il y a deux solutions, soit on le met à la poubelle, moi je le garde pour moi juste pour une référence, soit on l'édite. Et puis il a lu le roman et puis il m'a dit, voilà, c'est intéressant, on va le publier. Donc voilà comment est née Une année au château Gruau-Larose. Pour ma part, j'ai trouvé ça passionnant. Déjà dans l'écriture, forcément, on se met dans la peau d'un romancier, bien que ça soit pas un roman aussi spectaculaire que ce que peuvent faire les prochaines personnes qui vont venir ici, comme les Marc Lévy et autres. Mais c'est un roman qui est moderne dans son style d'écriture, forcément. C'est en cela où je rejoins Marc Lévy, mais de très très loin. C'est moderne et puis c'est surtout quelque chose qui est adapté à la vie d'aujourd'hui. Je pense que, pour l'avoir vu au Japon il y a longtemps et maintenant de plus en plus en France, les gens ont envie de s'évader, forcément, ont envie de lire un roman, mais ont envie d'apprendre des choses. Moi, j'ai toujours été marqué par Umberto Eco, par exemple. La difficulté de lire Umberto Eco est grande, mais il y a déjà le fait que le moindre de ses romans fait 400 pages, mais il y a un style et surtout il y a une connaissance qui est fabuleuse et qui vous permet à chaque page d'apprendre quelque chose. C'est ce que j'ai voulu dans ce roman. Et donc, pour les gens qui sont un petit peu passionnés, comme moi, de vin, pour connaître ce qu'il se passe dans le vignoble, pour savoir un petit peu tous les mois qu'est-ce que l'on fait dans la vigne pour arriver à un grand vin, puisque aujourd'hui, Château Gruau-Larose est l'un des plus grands vins qui soit fait dans le monde. Pour arriver à ce niveau-là, qu'est-ce qui est fait par des gens qui sont tous les jours dans les vignes? Et donc j'ai expliqué un petit peu cela. Donc en quelque sorte, vous avez la possibilité d'apprendre comment, non pas comment on fait un vin techniquement, mais comment on arrive à une maturité exceptionnelle de raisins qui vont vous permettre de faire un grand vin. En plus, là, on a la chance d'avoir un millésime exceptionnel. Et puis à côté de ça, vous avez une histoire relativement simple. C'est l'histoire de Paul, qui réussi très bien, carrière brillante dans la haute finance, et qui à un moment se dit « j'en ai ras-le-bol, voyager à travers le monde, ça me fatigue ». Et j'ai besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à mon boulot. J'ai besoin de prendre un petit peu de recul aussi sentimentalement, puisque la vie sentimentale était à zéro. Donc il avait envie de redécouvrir sa vie et puis de donner un sens, un vrai sens à sa vie. C'est en quelque sorte ce que moi j'ai vécu précédemment avant de créer mon entreprise, parce que j'avais des très grosses responsabilités et à un moment j'ai dû faire un choix. J'ai eu la chance de rencontrer mon épouse, une femme extraordinaire qui vient de Bordeaux. Voilà, assemblage de cépages entre les cépages de la vallée du Rhône et les cépages bordelais que j'ai rencontré à Vinexpo. En plus, moment assez particulier. Et Paul donc rencontre au tout début du roman Pierre, le propriétaire donc du château Gruau-Larose, et Pierre lui propose d'aller simplement passer un mois au château et de visiter ce château et d'aller dans le vignoble, visiter la région et se rendre compte que pendant un mois peut-être il va avoir de nouvelles idées, il va savoir ce qu'il va pouvoir faire pendant les 11 prochains mois de son année sabbatique. Et puis, Paul est tellement enchanté d'avoir passé un mois au château Gruau-Larose qu'il se dit ben, pourquoi ne pas passer les 12 mois, les 11 mois suivants. Et donc, chaque chapitre est lié à un mois. Et chaque chapitre est lié à ce qui se passe dans ce mois-là, dans la vigne, et en même temps à une découverte de Bordeaux, de sa région. Ça encore, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque... Donc voilà, Monsieur Merlot, le propriétaire du château Gruau-Larose. Vous êtes là, Monsieur Merlot. Et donc, on a dans ce livre une autre chose qui me tient à cœur, qui est celle de la découverte de Bordeaux. Sans mon épouse, là encore, je n'aurais pas eu la chance de découvrir Bordeaux aussi bien. Bordeaux, la ville de Bordeaux, la qualité de vie, les environs, les gens qui y habitent, le renouveau de Bordeaux, puisque en l'espace de 10 ans, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous l'avez vu beaucoup plus que moi, mais moi qui viens de temps en temps ici, je l'ai ressenti, et c'est quelque chose de très très positif. Et donc, au travers de cela, de ce roman, bah, vous découvrez aussi une partie de la ville de Bordeaux. Vous découvrez un petit peu la culture, les gens, ce qu'ils font. Il y a un chapitre sur la chasse. Voilà, c'est ça en quelque sorte le roman Une année au château Gruau-Larose. C'est quelque chose de simple, de facile à lire, qui reprend ce millésime 2010, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment exceptionnel. Et dans un château qu'il est autant, puisque tout d'abord les vins sont exceptionnels. J'ai la chance de travailler pour le château Gruau-Larose depuis maintenant 2 ans. Le château Gruau-Larose, je le connais depuis très longtemps grâce à mes parents. Mes parents ont toujours eu une très belle cave et ont toujours eu du château Gruau-Larose. Goûter des vieux millésimes a toujours été un régal pour moi. Je l'ai toujours dit à Monsieur Merlot. Goûter les millésimes récents, c'est vrai que c'est fabuleux. Et puis grâce à Monsieur Merlot, maintenant j'ai la chance de découvrir autre chose. C'est les millésimes du 19e siècle que seuls quelques très grands châteaux peuvent avoir. Il me semble qu'il doit y en avoir peut-être deux ou trois. Et c'est très rare, mais goûter tout début du mois, on a eu la chance avec M. Merlot et les plus grands journalistes du monde, notamment les Chinois qui font aujourd'hui beaucoup pour l'image des grands châteaux bordelais, des millésimes que l'on a pu déguster comme 1831. Qui restera marqué à vie. Hein, dès 1831, je n'en reboirai plus, sans doute. Il n'y en avait pas beaucoup au château, il n'y en a pas beaucoup. Les seuls vins aussi vieux que j'ai pu boire sont des Porto. Voilà, et puis quelques vins un petit peu étranges, des vins doux naturels. Mais sinon, il est très rare de découvrir ces vins-là. Et on se rend compte que depuis 1831, si les millésimes changent, la façon de faire le vin change aussi, mais il y a toujours le terroir qui parle. Et moi, Gruau-Larose m'a toujours impressionné parce que un grand vin, c'est un goût. C'est pas un goût fait, c'est pas un goût fabriqué, c'est pas du Coca-Cola. Non, c'est un goût particulier. Gruau-Larose, c'est un goût particulier, mais en plus, c'est un parfum. Et c'est ça qui m'a toujours fasciné. Gruau-Larose, quand vous mettez le nez dedans, vous avez l'impression de sentir un parfum. Quand on analyse un vin, très souvent, quand on le prend, on commence à le humer et on se dit « Ah, là, on sent la cerise noire, là, on sent... » Pour moi, ce sont des arômes, des associations d'arômes. Gruau-Larose, c'est un parfum. Et il y a quelques grands vins qui me donnent cette impression de parfum. Quand je déguste la Romane Conti, jeune ou vieux, j'ai cette impression de parfum, au-delà du goût. Quelques autres comme cela, et c'est pour ça que j'ai toujours une passion pour Gruau-Larose. Donc, très rapidement, forcément, ça a été beaucoup plus facile pour moi d'écrire ce Gruau-Larose, puisque j'ai cette passion qui était née depuis longtemps. Voilà. Alors peut-être Monsieur Merlot peut dire un petit mot sur le livre et puis sur Gruau-Larose, qui je pense est intéressant sur un point particulier, c'est la partie œnotourisme qui se développe de plus en plus. Ça, c'est une belle découverte, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de venir au château, venir découvrir.
Bon, je suis désolé de mon retard, et c'est vrai que si Bordeaux est devenu très beau, il y a quelques problèmes de circulation, bien que je finisse à bicyclette, mais même, ça a été très compliqué, et quand on habite la campagne, on mésestime le temps. Gruau-Larose, comme le disait Guillaume, est quelque chose d'absolument extraordinaire, et on a la chance d'en être les gardiens pour un temps. Et c'est vraiment une très grande chance. La viticulture à Bordeaux est en pleine évolution. On est en train de reprendre. On a beaucoup perdu avec la guerre de 14, qui a envoyé tous les hommes au front, et les méthodes de culture ont dégénéré à partir de la guerre de 14. Et on est en train, dans les grands crus de Bordeaux, à retrouver le lustre des années 1855, où il y a eu le classement, où c'était vraiment des grands crus. Et on a eu cette chance avec Guillaume de goûter des millésimes 1830. Mais Guillaume, je vous ai donné rendez-vous dans 10 ans pour regoûter le 1831 et voir son évolution, puisqu'on va essayer tous les ans de goûter le millésime, les millésimes en 1 cette année, les millésimes en 2 l'année prochaine, et ainsi de suite. C'est des produits qui redeviennent très internationaux et nécessité de communiquer. Alors moi, je suis plutôt agriculteur, pas trop communicant. En plus, il y a plein de trucs nouveaux comme Facebook, Twitter, tout ça, où je suis pas, j'excelle pas. Je cherchais quelqu'un qui est la sensibilité, parce que nous, c'est un métier de sensibilité. Tous les détails, tout ce qu'on fait autour de l'année, c'est de la sensibilité. Et c'est comme ça que j'ai fait appel à Guillaume pour m'aider à communiquer sur Gruau-Larose en anglais, en chinois. Il connaît tous les Chinois par leur nom, leur prénom. Et j'ai fait une grosse erreur. C'est qu'au bout d'un an, un an et demi à peu près, j'ai dit Guillaume, parce que ça m'intéresse de voir le ressenti que peut avoir quelqu'un d'un peu extérieur quand même, bien qu'il ait très imprégné Gruau-Larose, au bon sens du terme, c'est intéressant de voir, d'avoir son regard. Et j'ai dit Guillaume, j'aimerais bien que vous me fassiez une note sur ce que vous avez ressenti, comment vous le voyez, comment vous l'imaginez. Je m'attendais à avoir 3 ou 4 feuillets, bien rédigés bien entendu. Et voilà le résultat. Donc surtout si vous avez de la communication à faire, réfléchissez avant de vous faire appel à Guillaume. Parce que quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Et moi, je vous laisse le découvrir. Je ne sais pas ce que Guillaume a pu déflorer de son livre.
Non, je pense qu'il y a une chose qui est très importante sur laquelle M. Merlot peut revenir, c'est le travail qui est fait dans la vigne, parce qu'on n'en parle pas assez. Et moi, qui ne viens pas de Bordeaux, je le répète encore, qui viens de la vallée du Rhône, quand je vois les coteaux que l'on a et tout le travail, la sueur que chacun doit mettre pour aller vendanger et pour aller travailler dans ces côtes rôties, ces ermitages que peut-être vous avez eu la chance de découvrir, et que je vois, moi, la première fois de ma vie, des vignobles plats, et on me dit « ce sont des grands terroirs », je me suis posé des questions. J'ai goûté les vins sont exceptionnels depuis longtemps, donc j'en suis convaincu, mais j'avais besoin aussi de voir les gens, comment ils travaillaient, parce que quand on se dit, on peut tout mécaniser ici en quelque sorte, et puis on se rend compte que non, pas du tout, les grands châteaux ont un travail qui est encore plus compliqué, encore plus rigoureux, c'est ça qui est exceptionnel, que ce que l'on fait chez mes amis de la vallée du Rhône. Et donc là, peut-être Monsieur Merlot peut revenir dessus.
Oui, je crois que pour faire quoi, le vin, moi, j'aime bien le comparer à la cuisine. Donc, il faut d'abord une belle matière première. Et cette matière première, on n'a pas le choix, on ne va pas au marché. C'est celle qu'on va produire, qui va être notre base de travail. Et c'est beaucoup plus facile de faire une omelette avec des œufs qui ont été pondus du jour et quelques truffes que de faire, comme on nous oblige maintenant dans les cantines scolaires, de faire des omelettes avec des œufs en bidon. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir les œufs du jour et les truffes le jour où on va commencer à vinifier. Et ça se fait tout seul après. Donc le travail, c'est un travail vraiment tout au long de l'année, depuis même avant la taille, mais depuis la taille, où on va laisser très très peu de boutons. Très peu de boutons fructifères. Là, cette année, je ne sais pas si vous avez vu, mais la végétation est très très rapide. Donc immédiatement, il y a un bouton et un contre-bouton. Immédiatement, on est en train de finir d'enlever les contre-boutons pour avoir le moins de raisins possible. Et on enlève toutes les grappes excédentaires. Pour essayer, ce qui est important, c'est la régulation, c'est la régularité de production de chaque pied. On dit qu'il faut que la vigne souffre. Je dis non, la vigne, il ne faut pas qu'elle souffre. Mais la vigne, c'est un athlète de haut niveau. Et il faut qu'elle soit dans les meilleures conditions et qu'elle ait juste à produire ce qui lui convient. Parce que qu'est-ce que c'est que le fruit qu'elle va mettre ? C'est l'excédent d'acide qu'elle produit. Donc cet excédent d'acide, elle va le mettre la nature est bien faite, elle va le mettre dans des grappes de raisin et ces acides vont se transformer en sucre plus tard dans la saison. Donc ce qui est important, c'est de bien la réguler dès le départ. Alors certains de mes confrères me disent, mais vous prenez des dangers parce que s'il y a de la grêle, s'il y a de la coulure c'est la fleur qui est mal fécondée, vous allez perdre de la récolte. C'est vrai, mais le fait de bien la réguler depuis le début, ça fait un rythme continu pour la plante et elle a une croissance et une progression sereine. Alors c'est vrai que je risque de perdre la récolte, mais avec des raisins où il y a eu de la coulure ou des raisins où il y a eu de la grêle, on ne fait pas de grand vin. Or notre seul objectif, c'est la qualité. Et ce qui est important, chaque coup de ciseau a de l'importance. Et depuis que je suis à Gruau-la-Rose, c'est pour ça que je faisais référence à avant la guerre de 14 et après la guerre de 14, je me suis appliqué et j'ai eu la chance de pouvoir constituer autour de moi une équipe très motivée. Au niveau des gens qui taillent, au niveau des quoi, j'appelle ça des opérateurs, pour ne plus utiliser le terme ouvrier, mais c'est vraiment des opérateurs. Et on a des discussions ensemble, ils me disent ça, j'arrive pas, ça, le cône, quoi, je vais pas vous embêter avec la technique, mais ça, j'ai un peu de mal, ça, j'ai quelques difficultés. Et chacun est motivé. Et on va, j'ai fait une réunion avec le personnel ce matin, ça va un peu vite cette année, ils sont vraiment motivés, vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et bon, mais c'est pareil dans la bijouterie, c'est pareil dans beaucoup de métiers. Hein. Moi, je le vois dans la vigne. Et ça, je pense que c'est une évolution en viticulture. On a réalisé qu'il fallait des terroirs, ça c'est certain, c'est beaucoup plus facile, mais des hommes et la qualité des hommes. Donc, je crois qu'à Gruau-la-Rose, il y a un gros, on ne peut pas dire investissement, parce que c'est un partage, un gros partage dans la qualification des hommes.
Et c'est ce que j'ai découvert donc, au travers de tout le travail que j'ai fait en parlant avec M. Merlot et puis en parlant avec les différentes équipes dans le vignoble et puis dans les chais, forcément. C'est, M. Merlot me parle souvent d'orfèvre, mais c'est vrai, on est vraiment dans un... On est complètement, si certains ne le croient pas encore, on est vraiment dans le monde du luxe, parce que le travail qui est fait, c'est vraiment le monde du luxe. On est rentré dans un monde où tout doit être parfait, et ce travail dans les vignes, j'ai tellement été impressionné que je me suis dit, voilà, il faut écrire quelque chose qui soit plus détaillé, que maintenant vous l'avez compris, que c'est 3 ou 4 pages dont on parlait au départ. Il faut le mettre dans le cadre d'un roman. Et puis, je vous dis, donc, arrivant avec mes a priori typiquement hors bordelais, c'est-à-dire le travail dans la vigne, la ville de Bordeaux, les gens de Bordeaux, etc. Et voilà, ce roman, c'est en quelque sorte, c'est un petit peu la partie de mon histoire où j'ai découvert un endroit où j'adorerais vivre. Malheureusement et heureusement, je suis à Paris, donc on n'est pas très loin, on est à 3 heures de TGV, mais j'adorerais vivre parce que la qualité de vie à Bordeaux est extraordinaire. Les gens, j'ai beaucoup d'amis maintenant à Bordeaux, sont très sympathiques. Les vins sont délicieux, forcément un peu trop chers à mon goût, mais bon, ça c'est un... Voilà. Maintenant, je ne bois que du Sargé de Gruau-la-Rose, le second vin, et je ne peux plus boire de Gruau-la-Rose. Et encore, Gruau-la-Rose est très accessible. Mais voilà, ce roman-là, c'est peut-être un changement aussi de vision. Et c'est pour aider les gens qui ne sont... Pour les gens de Bordeaux, lire ce livre, ça leur permet de redécouvrir leur ville et leur région. Et puis, forcément, de découvrir un petit peu ce qui se passe dans la vigne. Mais pour les gens qui ne sont pas de Bordeaux, là, j'étais dans une dédicace en Vallée du Rhône la semaine dernière avec des grands vignerons de la Vallée du Rhône. Qui m'ont dit « Ah bon, tu écris sur Bordeaux, maintenant il faudrait écrire sur la vallée du Rhône. » Et j'aurais dit « Oui, mais ça va vous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe, de comprendre que quand vous venez à Vinexpo, il n'y a pas que Vinexpo. » Parce que moi, quand je venais à Vinexpo, je ne venais jamais dans la ville. J'étais là-bas, mon hôtel était à côté de Vinexpo, on avait des belles soirées dans les châteaux. L'une des très belles, notamment, c'est celle au château Gruau-la-Rose, avec des vieux millésimes là encore. Et jamais on ne visitait la ville de Bordeaux. Et puis à un moment, j'ai ouvert les yeux, je suis venu à Bordeaux, je me suis promené et j'ai découvert une ville extraordinaire. Et là, venant du tram, j'arrive en direct du TGV, venant du tram, marchant dans la rue jusqu'ici, je découvre des nouveaux restaurants, il y a plein d'endroits, les terrasses, les gens sourient, enfin, c'est la vie. Voilà, ça, on a envie de vivre à Bordeaux. Et c'est en quelque sorte ce que j'ai voulu écrire au travers de ce roman. Le plus important, forcément, puisque là, on revient là, dans la partie technique, c'était les primeurs, c'était au tout début du mois. Gruau-la-Rose 2010, toutes les notes ne sont pas encore sorties. Forcément, les grands journalistes mettent leurs notes. Déjà, des très, très belles notes sur Gruau-la-Rose, parmi les meilleures. C'était attendu, vu la qualité du vin. Déjà, 2009... Pour moi, ça méritait encore mieux, mais c'était déjà dans le top. 2010, c'est dans le top. Mais voilà, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas parce que le millésime est exceptionnel que le vin est grand. Tout à l'heure, je sais que vous êtes venus aussi pour ça, pas que pour ça, mais aussi pour ça. On aura la dégustation d'un château Gruau-la-Rose, qui est le millésime 2001. Millésime 2001 qui, au départ, n'était pas critiqué, mais n'était pas mis en avant par les journalistes. Et puis quand on le redécouvre aujourd'hui, c'est un millésime délicieux. Mais simplement, il fallait le travailler d'une façon normale, en quelque sorte. Ne pas surextraire, ne pas faire trop de concentration. Utiliser les faiblesses du millésime pour en faire des forces. C'est ce que j'ai découvert aussi à Gruau-la-Rose. C'est qu'on ne cherche pas à voir les points faibles et à dire, voilà, on va masquer ce point-là, on va masquer ce point-là, on va masquer ce point-là. Ce qui arrive dans beaucoup de châteaux, malheureusement, et dans beaucoup de vins à travers le monde. Non, on cherche simplement, on prend une faiblesse et on se dit comment on peut l'utiliser comme une force. Et quand vous avez un millésime qui ne sera pas un millésime comme 2010, notamment je parle de 2001, vous le travaillez comme un 2001, pas trop d'extraction, dans la finesse, dans l'élégance, mais vous apportez un équilibre qui lui permet de vivre dans le temps. Et ce millésime-là, c'est la belle image. Un autre millésime qu'on déguste délicieusement aujourd'hui, c'est 97. 97 qui, là, sur le coup, a été très critiqué, pas à Gruau-Larose, mais pour le millésime en règle générale, et que l'on goûte aujourd'hui, qui est délicieux. Pas chez tout le monde, là encore, mais voilà. Et donc, le fait de travailler comme cela, de perpétuer l'esprit, entre guillemets, maison, avec l'approche moderne, c'est ce qui me plaît aussi à Gruau-Larose, et c'est ce qui passe au travers de ce roman. Alors, moi, je vous propose, on va passer à la dégustation, et on va vous en parler. Hein ? Parce que là, on va juste déguster le 2001,
oui. Et
puis on va vous parler du 1831, on va vous faire rêver. Voilà, Bordeaux, le vignoble, une histoire d'amour, hein. Il y a un petit peu de sexe quand même, parce que dans des romans, il faut mettre un petit peu de sexe, donc il y a une histoire d'amour, hein. À la fin...
À Gruau, on a les phéromones.
Voilà. et puis, une fin heureuse, à la fin, au ferré, donc voilà, ça... Non, c'est très, très bordelais, hein. Vous verrez, très bordelais.